لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب إن شاء الله بارك الله فيك أخي طيب إن شاء الله وأنجستخي وأصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب أما بعد Donc on se retrouve aujourd'hui pour un cours, un nouveau cours sur notre matière, le fiqh. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer, le fiqh est une matière très importante. Alors, il est possible, justement à ce propos, qu'en deuxième année, on aura plus de cours de fiqh, puisqu'une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Une fois par semaine, ce n'est pas suffisant si on veut avancer vraiment à une vitesse correcte. Malgré que là, c'est correct, hein, la preuve, on a terminé. On a terminé un manuel d'entrée dans la science du fiqh, Matral ila ilm al-fiqh. Mais avec plus de cours, on aura pu le terminer plus rapidement. Plus rapidement. Ah. Donc concernant notre ouvrage ici, ça y est, par la grâce d'Allah Ta'ala, on est entré dans notre ouvrage Zad al-Mustaqni' de l'imam al-Hajjawi. Donc ça, c'est la base, c'est le matn. C'est-à-dire, c'est le livre de l'auteur qui demande une explication. Et cette explication, nous allons faire l'explication de notre cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Alors, bien entendu, il y aura, puisque normalement vous avez en votre possession le PDF de l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, puisque on n'a que ça à disposition traduit en français. Donc ça va vous permettre également de suivre avec Cheikh Al-Fawzan s'il y a des fawaïd en plus, etc. Sachant que normalement, Cheikh Al-Fawzan, il se résume au madhhab al-Hanbali, à l'école de l'imam Ahmed. Non. C'est également notre notre enseignement ici, dans un premier temps, selon le madhhab de l'imam Ahmed, al-madhhab al-Hanbali. Alors pourquoi? C'est une question qui revient beaucoup, 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 beaucoup chez les gens. Énormément. Hein. Question qui revient souvent. Est-ce qu'on doit étudier un madhhab particulier? Est-ce qu'on doit commencer par un madhhab? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Les savants disent que il n'y a pas de mal, Naham. À la base, tu ne pourras pas commencer par quatre madhhab en même temps. Madhahib, si on veut vraiment parler en arabe. Parce que souvent on met le singulier parce que c'est le singulier arabe qui est adapté avec la langue française. On parle plus en français. Al-Muhim. On ne peut pas étudier en tant que débutant, étudiant et débutant, quatre écoles en même temps. Donc on va commencer par un madhhab. Et le madhhab de l'imam Ahmed, c'est un des plus répandus. Et certains savants disent que c'est le madhhab qui se rapproche le plus du juste. On appelle ça sawab. Naham. Naham, plus proche de la sunna. Naham. Ahsant. Mais cela n'est pas dans l'absolu. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du ta'assoub, ce qu'on appelle du fanatisme, sur un madhhab, parce qu'un madhhab, à part le madhhab du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est celui-là qu'on doit suivre aveuglément. Il n'y a que celui-là. À part le madhhab, l'école, la doctrine du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas d'autre madhhab qui ne se trompe pas. Il n'y a que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est ma'soum. Ma'soum, c'est-à-dire infaillible. Mais tu es quand même obligé de commencer par une école. Après, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qui est demandé, c'est qu'en règle générale, quel que soit le madhhab que tu vas étudier, on te demande d'adhérer à la vérité où qu'elle soit, parmi les quatre écoles. Et même si ce n'est pas les quatre écoles, parce qu'il n'y a pas que les quatre écoles qui ont des avis juridiques. Il y a même des imams, parmi les grands imams qui n'ont pas eu leur école juridique, mais ça aurait pu être le cas. Afwan, dans un premier temps, ça aurait pu être le cas, et dans un deuxième temps, leur parole est considérée. Leur parole est considérée. On va dire comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors également, ça c'est minbab il faïda, mais quand on va parler de fiqh, quand on se met sérieusement dans le fiqh, pas quand on regarde dans les réseaux sociaux une ou deux ou trois vidéos, non. Quand on rentre vraiment, on met sa tête dans le fiqh, on va dire son nez, façon de parler, hein, dans le fiqh. On va découvrir beaucoup de nouvelles choses.
On va se dire, subhanallah, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc il y a un madhhab, il y a une autre école. Certains savants ont dit que c'est la cinquième école, qui s'appelle Al-Zahiriya. Al-Zahiriya. Les savants mentionnent souvent, pas tous les savants, hein, mais il y a des savants qui mentionnent souvent l'avis dans une divergence. Ils mentionnent souvent les Zahiriyas, ils ont vu ça, ils ont vu ça, ils ont vu ça. Alors, dans un cours précédent, il y avait un étudiant qui nous avait posé la question sur les Zahiriyas, qu'est-ce que c'est comme madhhab? On avait répondu vaguement, c'est-à-dire par rapport à, on avait répondu en résumé parce qu'on était dans un cours, des fois on n'a pas le temps de détailler. Mais dans le question-réponse, d'ailleurs on va regarder tout de suite pour la faïda pour vous. Toutes les questions de l'institut que j'ai répertoriées. On a répondu à cette question. Je vais essayer de la retrouver ici. Parce que c'est quand même assez important. Souvent, des fois, vous avez entendre Zahiriya, ils ont dit que c'est comme ci, que c'est comme ça. Alors attention, ça veut pas, ça ne veut pas dire que, écoutez bien, que cette école Al-Zahiriya, c'est une école forcément que nous on doit prendre de cette école. Vous allez voir pourquoi. La question a été posée au savant. Alors, Majmou al-Fatawa, il me semble que c'est Cheikh al-Uthaymin. Alors, nous entendons beaucoup parler, nous entendons parler d'un madhhab qui s'appelle Al-Zahiriya. Est-ce que cette école est sur la sunna? Réponse du savant. La méthode ou l'école Al-Zahiriya est connue. C'est celle sur laquelle a évolué celui qui a mis en place, hein, le précurseur Daoud ibn Ali al-Zahiri. Daoud ibn Ali al-Zahiri. Ou Abu Mohammed ibn Hazm. Alors ça, tout le monde connaît, c'est un de nos grands savants parmi les salafs. Ibn Hazm, naam, qui a suivi lui également le madhhab de Zahiriya. Le sens de cette école, c'est qu'ils prennent les textes en apparence. Ils expliquent ou ils prennent les textes selon leur apparence. Et ils ne prennent pas les textes selon les causes. Ou alors ils ne prennent pas non plus le qiyas qui est l'analogie. Il n'y a pas de qiyas pour eux. Wala yanzurun ila ilal wal ma'ani. Ils ne regardent pas les causes d'une preuve et ils ne regardent pas le sens de la preuve. C'est pour cela qu'ils ont été appelés Zahiriya. Zahiriya, en fait, dans la langue arabe, ça vient de apparence, du verbe apparent. Alors, je regarde les. Oui, c'est ça. Al-Zahiriya. Oui, c'est ça. Naham. Ça s'écrit comme ça, Naham. Exemple, texte, ils vont directement l'appliquer sans preuve. Oui. Si vous préférez, par rapport à un texte, une preuve, ils vont la prendre en apparence. Il y a des textes qui sont apparents, mais dont le sens n'est pas apparent. Eux, ils ne cherchent pas ça. Tout ce qui est apparent, ils le prennent. En apparence. Pas de métaphore pour eux, pas d'analogie. Al-Muhim. قولهم في الجملة أحسن من قول أهل الرأي مجرد الذين يحكمون الآراء. Donc on nous dit, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, à la base, وفيكم بارك الله, à la base, ce madhhab, il est mieux quand même, il nous dit que le madhhab al-Ra'i, c'est-à-dire le madhhab des points de vue, donc ça c'est plus les gens de l'innovation, hein. Qui vont altérer les textes, mettre leur point de vue, je pense, etc. On dit Zahiriya, de ce côté-là, ils sont quand même mieux. Ils prennent du Kitabi wa Sunna, il n'y a pas de souci, Zahiriya, mais ils ont un manque, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, ils ont un manque. C'est qu'ils prennent les textes en apparence. Ils ne tiennent pas compte des jugements, des causes qui nous ont été mentionnées dans la législation et le but. C'est pour ça qu'ils se sont beaucoup trompés dans, ils se sont trompés beaucoup dans, ils se sont trompés, pardon, dans beaucoup de questions dans le firqa. Donc personnellement. Voilà ce que nous avons de Cheikh Al-Uthaymin. Donc personnellement, moi, qui ne suis rien du tout, hein, mais vraiment, comme vous le savez, Wallahul Musta'an, personnellement, les quatre écoles me suffisent. Les quatre écoles me suffisent, walhamdulillah. Maintenant, il y a des savants. On a déjà nous-mêmes étudié avec un professeur de fiqh qui mentionnait beaucoup Zahiriya, Zahiriya. Donc voilà. Khair, Inch'Allah. Ça, c'est bien que vous le sachiez, parce que dans le fiqh, vous allez entendre Zahiriya, Zahiriya. Mais nous, là, dans un premier temps, ici, on va plus entendre. Le madhhab de l'imam Ahmed. Et comme on est avec Cheikh Al-Uthaymin, lui, Cheikh Al-Uthaymin, même si dans un premier temps il a étudié le madhhab de l'imam Ahmed, il faut savoir que Cheikh Al-Uthaymin, quand il explique Zad al-Mustaqna, selon le madhhab de l'imam Ahmed, il va mentionner le madhhab de l'imam Ahmed, mais Cheikh Al-Uthaymin, il n'est plus dans le madhhab de l'imam Ahmed, puisque c'est un mujtahid. Lui, il est dans le madhhab. De ce qui est là où c'est juste. Il va aller là où c'est juste. Si c'est l'imam Malik, il va dire c'est l'imam Malik. Si c'est la majorité des savants, il va te dire c'est la majorité des savants. Et c'est ça qui est instructif quelque part. Parce que si vous étudiez, comme on va le faire ici, selon une base, l'école de l'imam Ahmed, et que vous voulez quand même savoir est-ce que c'est l'imam Ahmed qui a raison dans cette mas'ala ou pas. Et bien avec Cheikh Al-Uthaymin, vous allez être fixé. Et comme nous, on va étudier avec Cheikh Al-Uthaymin, on se doit de prendre l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. Ça aussi, c'est important. Quand tu étudies avec un Cheikh, tu prends son avis. Min adab as-su'al, les savants disent, le comportement dans le questionnement, si tu vas questionner un Cheikh, tu vas en questionner. T'as une question dans le fiqh, tu vas aller questionner un savant, tu vas en questionner un, pas deux. Et ce savant que tu auras questionné, ça te plaît ou ça te plaît pas, il va te donner son avis, même s'il y a une grosse divergence. Faut pas que tu dises ça me plaît pas, ça me convient pas, je vais aller voir un autre savant. Non, ça c'est une erreur. Et ça, ce n'est pas permis, là il y a djouz. Et vous voyez qu'énormément de gens pratiquent ça, hein. On a appelé, on demande l'avis. Moi-même, ça m'est arrivé, on m'a demandé un avis à moi. J'ai donné un avis. La personne, si elle me demande à moi, je vais prendre l'avis qui m'a convaincu. La personne, ça lui plaît pas. Ça l'arrange pas. Alors, il y a deux solutions, deux genres de personnes. Celle qui va insister jusqu'à ce que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Ou alors, tu as la personne qui va demander à quelqu'un d'autre. Et ça déjà, c'est pas permis, mais en plus, ça peut déboucher sur de la fitna, ces choses-là. Ce genre d'agissement, ça peut déboucher sur de la fitna. La fitna, c'est-à-dire des troubles, des problèmes. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Vous êtes dans un institut, donc le Oustef, comment dirais-je, il est à votre disposition, façon de parler. Mais vous verrez que hors institut, tous les étudiants maintenant, les savants, etc., ils sont plus disponibles comme ils l'étaient avant. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Les limites, elles ont vraiment, vraiment été dépassées. Wallahi, cette semaine, j'écoutais Cheikh El Faouzen. Je crois que ça a duré, je n'ai pas de chronomètre, mais peut-être 30 secondes, hein, la question et la réponse. J'ai oublié c'était quoi la question. Mais il lui a répondu, Cheikh El Faouzen, il a répondu, t'as qu'à aller voir un juge. T'as qu'à aller voir un juge. Un qadi. Parce que Cheikh El Faouzen, quand tu lui poses. Il n'aime pas Cheikh El Faouzen. Oui, hein, il est connu pour ça, Cheikh El Faouzen. Déjà, par son expérience, il en a trop vu. Et Allahu Ta'ala, je pense, hein, selon ce que moi j'ai pu constater, Allahu Ta'ala lui a donné une sorte de discernement. Il voit quand c'est une question qui peut apporter de la fitna ou que la personne qui vient poser la question, elle est bancale. Elle cherche autre chose. Ça lui arrive même de dire, pourquoi tu me demandes à moi? Va demander. Attention, ça ne veut pas dire que le savant, il est méchant quoi? Le savant, il t'éduque. Il t'éduque. Il y a quelques années, j'ai déjà téléphoné à un savant, il nous a raccroché au nez. On a dû en appeler trois, il n'y en a qu'un seul qui nous a. Il y en a un, il nous a raccroché au nez. Il y en a un autre, il a dit. Je téléphonais pour un frère à cette époque-là. Il y en a un autre, il a dit. La femme, elle doit suivre son mari. Et il y en a un autre, alhamdoulilah, il a pris le temps, il nous a expliqué, expliqué, expliqué. Mais aujourd'hui, si vous posez ce genre de questions aux savants, oui, ma femme ne veut pas faire, elle veut pas partir étudier, elle veut pas partir faire la hijra, ou vice-versa, le mari ou quoi, ça y est, comment ça s'appelle, la cocotte minute, c'est pas, elle a explosé. Elle a explosé, la cocotte minute. Ils ont fait exploser la cocotte minute. Donc dans les questions de fiqh, dans les questions de fiqh, il faut faire très attention, on va revenir. Alors ça, c'est inévitable, hein. Et vous allez comprendre, on va revenir à la base de la base de la base de notre religion, l'islam. C'est la sincérité. Dans le fiqh, sois sincère. Sois sincère. Parce que le fiqh, c'est quoi? Fil haqiqa. Tu es en train d'adorer Allah avec tes actes. La aqida, tu adores Allah avec ton cœur. Il y a aussi également des actes. Et le fiqh, tu adores Allah avec tes actes. Et tes paroles, hein, bien sûr. Donc ça demande de la sincérité dans les agissements. Ce n'est pas un jeu. comme le font les gens de l'innovation ou certains ignorants. Et pourquoi je vous mentionne ça en introduction avant d'entrer dans le firqa? Parce que faites très attention. Là où vous ne vous attendez pas, le shaitan il vous attend. Là où toi tu t'attends pas, non, je vais juste étudier le firq, c'est tout. Mais même dans le firq, on ne le souhaite à personne. Hein. Écoutez bien ce que je dis, ça vient pas de moi. Ça vient des grands savants. Même dans le firq, le shaitan, il peut faire de toi un zindiqa. Et vous commencez à me connaître, les termes, je ne sors jamais un terme comme ça de ma tête ou. Les termes, ils sont légiférés. Je les ai appris avec les ulama. Je ne les ai pas appris dans la rue ou avec les ulama. Donc forcément, ils nous ont appris où les mettre, ces termes, où les placer. Si je dis par exemple quelqu'un est un fasiq, je ramène mes preuves. Vous m'entendez pas dire Foulen est un kafir, Foulen est maudit, parce qu'on n'a pas le droit. Sauf exception. Si par exemple Allah et son messager ont mentionné un tel est kafir, il ira en enfer, ou si les savants ont déclaré un tel mécréant. Et c'est déjà arrivé. Les savants déclarent une personne particulière de mécréante. Et là, on peut répéter. Mais toi, tout seul, non. Al-Muhim, on a déjà parlé de ça dans Tawhid. Dans le firq, pour revenir, faites attention, ne négligez pas le firq. Parce que le firq, même dans le firq, le shaitan, il peut te tirer, te tirer, te tirer. Zanadiqa, c'est quoi? C'est devenir un impie, un munafiq, un hypocrite, même un mécréant. Alors vous allez me dire, mais comment? Comment ça? Comment ça? C'est du firq. Comment je peux devenir mécréant avec la purification, la prière, le hajj, le jeûne, comment? Il y a des savants qui disent, écoutez bien, il y a des savants qui disent, à force de chercher que dans le firqa, jurisprudence, les questions. À force de chercher, vouloir chercher que les questions où ce sont des paroles de savants où ils se sont trompés, où ce sont des paroles de savants où elles sont marginales, ces paroles, où ça contredit vraiment l'unanimité, par exemple. On cherche que ce qui nous arrange. Attention, retenez bien. Tu as le droit de prendre ce qui te facilite, mais pas ce qui t'arrange. Vous voyez comme les termes, dans le firq, dans la religion, nous les termes. Tu as le droit d'appliquer un terme pour telle situation, tu n'as pas le droit d'appliquer un autre terme, même s'il ressemble à l'autre. C'est daqiq la religion, c'est précis. C'est une révélation. C'est précis. Tu as le droit de prendre ce qui te facilite. Je vais vous donner un exemple, mais tu n'as pas le droit de prendre ce qui t'arrange. Parce que ce qui te facilite, c'est Allah qui t'a autorisé. Et les savants disent, c'est recommandé de prendre l'autorisation d'Allah. Par exemple, Allah Ta'ala, il t'a autorisé de manger pendant le jeûne en voyage, de rompre le jeûne. On appelle ça rukhsa. C'est une autorisation d'Allah, c'est bien de prendre l'autorisation d'Allah, c'est pour te faciliter. Donc là, on dira que tu as pris la facilité. Mais si tu me dis par exemple, moi je vais manger au McDo, ça m'arrange. C'est la viande des chrétiens, ça m'arrange, ça m'arrange, c'est tout. J'aime trop bien la viande là-bas, c'est à côté de chez moi, ça m'arrange. Vous avez vu la différence? Entre la facilité et ça m'arrange. Je ne sais pas quel autre exemple je pourrais vous donner. Je pense que vous avez compris. Il faut faire attention à ces choses-là. Alors, pour Continuer. Les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation. Eux, justement, ils sont tombés dans ça. Alors on ne va pas dire qu'ils sont mécréants, mais il y en a, c'est très grave pour eux. La preuve, je n'invente rien. Il y a des savants qui ont dit, eux, dans une daoula islamia, ce serait les coups de fouet où on leur coupe la tête. Parce qu'ils ont émis des avis juridiques qui contredisent complètement Kitab wa Sunna et les ulama. Donc vous voyez le shaitan, même dans le fiqh, il peut te faire tomber. Une raison de plus pour bien étudier le fiqh et l'étudier avec les gens compétents. Pas avec les bricoleurs ou les gens de l'innovation ou autres. Wa alaykoum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Naham. Naham pour notre étudiante si elle a une question. Je peux vous demander la différence entre la facilité et l'arrangement. Est-ce que prendre un avis qui nous facilite lors d'une divergence? Vous pouvez prendre un avis qui vous facilite lors d'une divergence. Qui vous facilite lors d'une divergence. La religion, c'est la facilité. Mais il faut vraiment comprendre. Même si l'on sent que la vérité tend vers l'autre avis, ah là, c'est autre chose. La religion, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la facilité. C'est la facilité. Le musulman, il choisit en premier l'avis dont il a l'avis. Alors, je remarque que souvent les gens prennent la facilité ou ce qui les arrange pour ne pas priver, par exemple. Le souci pour la solution pour notre étudiante ici, c'est qu'elle perçoive vraiment la différence à 100% entre la facilité et ce qui m'arrange. Au moment où elle a bien perçu la différence entre prendre ce qui me facilite et ce qui m'arrange, il y a une différence. Si on a saisi la différence, on a compris. Si l'intention entre dedans, bien sûr. Si ton intention, Parce que regardez, si tu prends ce qui te facilite, c'est que tu as une bonne intention. Mais si tu prends que ce qui t'arrange, c'est que ton intention, elle est mauvaise. Je vais vous donner un exemple. Telle chose me facilite, je prends une position dans la religion, dans le fiqh, parce que ça me facilite, parce que par rapport à ma maladie, par rapport à certains, comment qu'on dit, inconvenus ou qui m'incombent, qui me sont gênantes, je prends cette position, ça on appelle ça, je prends ce qui me facilite dans ma religion. Et comme il y a une divergence, j'ai le droit. Mais si par exemple, je vais prendre dans une divergence quelque chose où il n'y a vraiment pas, c'est clair que je vais prendre cette chose-là juste parce que moi, ça m'arrange. Je n'ai pas envie de mettre un pantalon au-dessus des chevilles, ça m'arrange pas. Bien qu'il n'y ait pas divergence totalement sur ça. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas de mettre un djellbab, je vais mettre une robe serrée, ça me court, ça me couvre, mais c'est serré. Subhanallah, aujourd'hui, je pensais à ça, mais je me disais qu'il y a une différence entre facilité et ce qui m'arrange, puis je me suis dit que je devrais poser la question, et là, vous en parlez. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Personnellement, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est propre à nous-mêmes. On remercie Allahu Ta'ala. Il n'y a jamais On va pas parler de hasard, mais il n'y a jamais de situation qui tombe comme ça. Où on sait que Allahu Ta'ala, il calcule bien les choses. Et je vais même vous dire, on le prend même dans les deux sens, pas que dans le bien. Le bien selon la conception de l'être humain, parce que ce que nous, on croit que c'est mal, envers Allah, c'est du bien. Ça, on le verra dans le tawhid. Mais même par exemple, les problèmes, le dénigrement de l'étudiant, tout ça, on sait que c'est ça, si ça tombe à un moment précis, si c'est, etc., on sait que c'est un bien. Alors c'est, il y a beaucoup de gens, ils vont se dire, subhanallah. Mais c'est ça la aqida. Si tu en sors correctement, il n'y a pas de souci, wa alaykoum assalam. Si tu en sors correctement, tu n'en ressortiras que plus élevé auprès d'Allah. Alors on ne re-rentre pas dans les polémiques, hein. On a fini avec tout ça, mais c'est juste. Naham. Exactement, c'est toujours après. Et il y a même un dalil, il y a même un dalil, un texte qui dit que, subhanallah, au moment où Allah, subhanahu wa ta'ala, il allait donner le secours à son serviteur, c'est là qu'il a arrêté de patienter. Au moment où Allah, ta'ala, ça y est, lui donne le secours, il a arrêté de patienter. Alors il y a des gens qui vous diront, mais subhanallah, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu défends pas? Pourquoi ceci? Pourquoi? Du incroyable. Ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Que tu en sortiras, tu en ressortiras plus élevé. Taïb. Donc dans le firq, il faut vraiment que vous assimiliez cela. C'est qu'il y a deux nuances. Il y a dans le firq, tu as droit de prendre une position qui t'a convaincu, ça c'est plutôt l'obligatoire. Tu prends ce qui t'a convaincu, là où ça se trouve, l'imam Malik, l'imam Abi Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, là où tu es convaincu. S'il y a une position, vraiment elle t'arrange, mais c'est pas elle t'arrange toi dans... Plutôt elle te facilite, pardon. Vous voyez comme les termes, hein? Elle te facilite, mais elle te facilite par rapport à des paramètres. Il faut qu'il y ait la... Il faut qu'il y ait l'excuse, ça me facilite parce que moi, voilà, je ne peux pas porter le sitar, j'ai une maladie. Un exemple, je ne peux pas porter le sitar, j'ai une maladie. Si je mets un tissu sur mon visage, alors ça me brûle ou j'arrive plus à respirer ou je ne sais pas quoi. Comme moi, quand je mets le masque, au bout d'un certain moment, j'arrive plus à respirer. Peut-être à cause de l'allergie, je ne sais pas. Arrivé un moment, le masque, je suis obligé de l'enlever, je peux plus respirer. Et ben là, si une sœur elle met des lunettes ou elle met autre chose, on va pas la blâmer. Là, on parle de celui qui est blâmé, c'est celui qui cherche vraiment ce qui l'arrange, pas ce qui lui facilite par rapport à d'autres paramètres. Ce qui l'arrange. Est-ce que tout le monde a compris la différence entre ce qui te facilite et ce qui t'arrange? Je vais vous donner un exemple. Les frères musulmans, Ismaïl Mounir, tout ça, Qardaoui, toute la bande des frères musulmans, comment qu'ils s'appellent? Il y a eu de la grosse polémique sur lui, Tariq Ramadan, etc. Je ne mettrai pas Tariq Ramadan. Parce que lui, c'est un peu spécial. Lui ne joue pas. Allahu a'lam, lui ne joue pas. Il a vraiment la conviction de ce qu'il. Voilà, il est tombé chez les frères musulmans. Mais on prend chez les francophones, a'ouzou billah, hein, comme Ismaïl Mounir, tout ça, c'est vrai que c'est une croyance. Mais lui, Oui, c'est ça qu'on a dit, Zanadika. Si tu prends trop, c'est une très bonne question. Parce que j'ai oublié de dire, les savants disent, celui qui persiste à prendre ce qui l'arrange, il finira par tomber dans l'hypocrisie. Et je vais vous donner un dalil. Comme vous le savez, nous, on parle avec les preuves. On a été éduqués comme ça, et c'est comme ça qu'on essaye de vous éduquer également. Vous connaissez sûrement les 40 hadiths nawawi. Je pense que vous avez tous entendu parler des 40 hadiths nawawi. Mashallah, barakallahu fiikum. Dans les 40 hadiths nawawi, an-nawawi, hein, nawawi c'est en français, en arabe c'est an-nawawi, hein. Faut pas me tenir rigueur, hein, on parle en français là. Quand on parlera en arabe, là on verra, ça sera autre chose. Dans les 40 hadiths nawawi, il y a un hadith, al-halal ou bayyin, wal-haram ou bayyin. Le licite est clair et l'illicite, il est clair. Et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est ambigu. Vous savez, dans l'explication de ce hadith, vous pouvez aller vérifier, hein. Dans l'explication de ce hadith, les savants disent, à force que tu persistes d'aller entre les deux, cherchez ce qui t'arrange. Cherchez là où il y a des ambiguïtés. Question de fiqh, hein? Ben, tu finiras dans l'hypocrisie. Et certains savants disent que ça peut même aller jusqu'à la mécréance. Vous savez pourquoi? Pourquoi la mécréance? La mécréance, c'est. Attends, on voit gros loin là. On sait ce que c'est que la mécréance. Les savants disent, la mécréance, si vous voulez une petite définition comme ça, les savants disent, la mécréance, c'est le contraire de la foi. Donc comment dans le fiqh, quelqu'un, il peut tomber dans la mécréance? Bah, à force de chercher ce qui est ambigu, de chercher ce qui l'arrange, il va renier la vérité. Combien de hadiths, combien de versets il va renier? À force, on dira, lui, il ne prend plus la religion. Il renie la religion. Il renie. Vous savez que renier une lettre du Coran, c'est de la mécréance. Hein. Renier un hadith du prophète, c'est de la mécréance. Alors attention. Retenez bien ça, les étudiants. On va dans les détails parce qu'on est, Inch'Allah ta'ala, nous sommes des étudiants, donc on doit aller dans le détail. L'étudiant, ce n'est pas celui qui se contente de ce qui est général, il va dans le détail. Alors, lorsqu'on dit renier une lettre ou renier un verset, on a déjà parlé des conditions, des empêchements de la mécréance. Il y a des sectes égarées altérer, voire refuser des hadiths du prophète, aïssatoua. Mais là, on ne dit pas qu'ils sont mécréants. Il y en a, on va dire, qui sont mécréants, des sectes, mais il y a des savants, ils disent que certaines sectes ne sont pas mécréants, parce que là, ils n'ont pas renié la parole du prophète, aïssatoua, ils ont interprété autrement la parole du prophète. Et ça c'est une différence. Hein. Donc, faut faire attention. Donc, faut faire attention. Mais retenez ce hadith. Al-halal ou bayyin, ou al-haram ou bayyin. Il est clair le halal, il est clair le haram. Entre les deux, il y a des ambiguïtés. À force d'aller entre les deux, ou d'aller vers le haram, et bien à force, ça y est, tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Et regardez, des gens de l'innovation, même des awam, le shaitan, il les a tellement tirés que. Bon, c'est un exemple, le premier qui me vient. Hein. que même si on lui dit attention, ce restaurant, il achète ses poulets chez des Indiens, des mouchriquines, il va te dire, moi, il m'a dit que c'est halal, c'est halal. Il est vrai qu'il y a la règle qui dit, si un musulman te dit que c'est halal, c'est pour lui. Mais les savants disent, si toi tu as une preuve que c'est pas halal, tu n'es pas fou. Si tu as la preuve que ce n'est pas halal, et que le gérant, il te dit c'est halal. En parlant de restaurant, Moualim, excusez-moi, vous aviez dit que vous alliez nous parler du McDo. Ah bon? Je ne me souviens pas. Le McDonald's, qu'est-ce que j'avais dit sur le McDonald's? Je ne m'en souviens pas. Vous savez, je dis tellement de choses. Vous voulez parler de la divergence entre les chrétiens, manger chez les chrétiens et manger chez les... Et manger... Est-ce qu'on a le droit de manger chez les chrétiens ou pas? Ça, il y a une divergence entre les savants. Naram, il y a la vie, hein, il y a la... Déconseillez cela et que vous allez nous expliquer pourquoi. Naram. Alors, pourquoi on déconseille cela? Parce que dans la jurisprudence, on sait que quand il y a une divergence, il y a plusieurs avis. Et on sait qu'il y a des avis qui sont plus forts que d'autres. Et nous... Alors, on va lire. Nous, nous avons la conviction que ce qui est plus fort, c'est que oui, on peut manger chez les chrétiens, chez les juifs. Oui. Il y a Dalil sur ça. Mais... Il y a des endroits où c'est ambigu. Comme le McDo, où ça a été prouvé. D'où vient la viande, d'où vient l'huile des frites avec du halouf, etc. Du khinzir plutôt, etc. Wallahu alam. Il faut, ce qui prête à ambiguïté, il faut le délaisser. Quand vous avez un doute sur quelque chose, ça c'est une règle de jurisprudence, le mieux c'est de s'abstenir. Je vais vous dire, moi c'est un avis personnel et je l'avais lu d'un savant. Mais c'est aussi mon avis. Au-delà de la permission, c'est vrai qu'il y a une position que c'est permis, etc. C'est comme se marier avec les chrétiennes. Il y a des savants qui disent, n'y a-t-il pas assez de femmes musulmanes toutes seules? N'y a-t-il pas assez de restaurants halal pour que toi tu ailles chez les koufars où il y a des doutes, ou que tu ailles te marier avec une chrétienne où tu n'es pas sûr qu'elle va se convertir et donc tes enfants ils vont être éduqués à l'européenne ou je ne sais quoi? Il faut réfléchir à deux fois. Alors, j'essaye depuis tout à l'heure de vraiment sortir la question de notre étudiante. Là, je n'arrive pas à la lire. Allah al-Musta'an. Friture, etc. J'arrive pas à la lire. Allah al-Musta'an. On va essayer. Alors, assalamu alaikum oustaz. Concernant le McDo, j'ai ma cousine qui travaille là-bas. Elle m'a dit qu'ils mélangent tout là-bas dans la friture. Ils cuisent tout dans la même friture, poisson, viande, porc, vous voyez? Vous voyez? Une copine aussi m'a dit la même chose. Vous voyez? Alors, ça va peut-être vous étonner, hein? Mais ça va peut-être vous étonner. J'avais, je crois, 18 ans. 18 ans. On va répondre à ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. On va répondre à ça, Inch'Allah. Lorsque j'avais 18 ans, donc ça remonte à loin, hein, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés. Ce n'est pas au sens péjoratif, hein. Je sortais du service militaire et Donc je ne connaissais pas encore l'islam, pour vous dire. Je ne connaissais pas encore l'islam, j'avais entendu. Mouhim. J'avais mon meilleur ami qui était directeur du McDonald's des Champs-Élysées. J'ai donc travaillé dans un McDonald's et ce qui m'a permis de voir et de répondre à notre étudiante ici, que je confirme, oui, les ustensiles, l'huile, tout ça, c'est pour avoir travaillé, hein. C'est pas on m'a raconté ou quoi que ce soit, j'ai aussi travaillé. Et Wallahul Musta'an. Wallahul Musta'an. Taïb. Alors, qu'y a-t-il d'autre comme question? Alors, Oustaz, mais les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Je veux dire par là que quand on dit possibilité de manger chez les chrétiens, c'est bien les chrétiens. J'arrive pas à lire, mais j'ai compris. Désolé, je suis pas très clair. J'arrive pas à lire, mais j'ai compris la question. J'ai compris la question. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit. Ce sont les chrétiens. Tous les chrétiens, c'est ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens. Wallahu a'lam, c'est ce que dit Cheikh Al-Uthaymeen. Dans les pays musulmans, vous pensez la même chose car les McDo sont halal la viande. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Il y a des pays musulmans où le McDo, Wallahu a'lam, c'est scrupuleux, il vérifie, etc. Donc oui, mais il y a d'autres pays où c'est moi personnellement, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu au Maroc concernant les McDo, il y a eu une polémique. Il y a quelques, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, peut-être plus, il y a eu une polémique avec les McDo du Maroc. J'ai oublié quelle polémique, mais il y a eu une grosse polémique. Je vous cache pas, quand je vais en Arabie, bah, je mange au McDo, hein. Ça m'est arrivé en Arabie de manger au McDo. Pourquoi? Parce que je sais que là-bas, c'est vérifié, etc. Mais il y a des pays, Wallahu a'lam. Ça reste à voir, hein. Wallahu a'lam. Donc comme on est arrivé à la fin de notre cours, subhanallah, j'ai pas regardé encore une fois depuis avec le portable, les machakils avec le téléphone, etc. J'ai du mal à regarder chez les frères, mais on va regarder là chez les frères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwani wa ustad al-aziz. Hayakallah, akhi Ziyad, Sheikh Ziyad, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayakallah. Est-ce que la divergence est une miséricorde d'Allah, comme je l'ai entendu plusieurs fois ou pas? Les savants disent ce hadith, akhi Nourdine, ce hadith, Allahu alam, il est inventé. Allahu alam. Les savants disent que la divergence est une miséricorde. Les savants disent que c'est un hadith inventé. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi papa, cher papa. Cher papa, il y a aussi le prédicateur Islam ibn Ahmed. Oui, je le cherchais dans ma tête celui-là. Un cas celui-là. Qui dit souvent sortir du consensus avec des nouvelles choses adaptées au contexte français et les valeurs de la France, même s'il ne le dit pas, effectivement, il se contredit chaque année à force de sortir des avis marginaux. Vous avez vu, lui, c'est un cas typique également. C'est un phénomène, lui, et il est extrêmement dangereux parce qu'il est extrêmement plein de choubouha, d'ambiguïté. Lui, j'ai dû beaucoup le suivre, vous savez pourquoi? Pour lui répliquer. Parce qu'il était vraiment un danger, donc j'ai dû beaucoup l'écouter. Et pour lui répliquer, les savants disent, tu peux écouter un innovateur si c'est pour lui répliquer. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tu es au courant, papa, est-ce que ce Islam ibn Ahmed, il est toujours dans la prédication ou... Assalamu alaikum, Oustad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Abdallah, est-il permis à un homme de vivre seul, sans famille et parents, sous prétexte que le contexte familial ne soit pas opportun? Famille musulmane, question, pas pour moi. Maalich, même si c'est pour toi, il n'y a pas de souci, Akhi. Est-il permis de fréquenter une personne qui fut notre ami longtemps, de longue date, même qui ne tient pas toujours ses paroles, promesses et tombe souvent dans les désobéissances, ou alors faut-il s'en éloigner pour se préserver, préserver sa religion, si la personne qu'il a fréquentée est assez influençable, surtout ce qu'est l'amitié, etc. Barakallahu fik. Donc notre frère Abdallah, notre frère Abdallah, est-il permis à un homme de vivre seul, sans sa famille et parents, sous prétexte que le contexte familial ne soit pas opportun? Ce qui est demandé à la base. À la base, c'est de patienter sur la famille. C'est de patienter le maximum, d'avoir un bon comportement, etc. Maintenant, si ça devient invivable dans le sens où ça touche ta religion, ça va toucher ta religion, alors là, oui, c'est permis. C'est permis. C'est même permis à la femme. Si sa famille, c'est trop, ça joue sur sa religion, sur son état mental, elle est malade, etc. Eh ben, il lui est permis de vouloir se marier pour partir, pour se sauver en fait. C'est comme ça. Il y a des ulama, hein. On a entendu des ulama qui disent la solution, ben, marie-toi et pars. Deuxième question, est-il permis de fréquenter une personne qui fut notre ami il y a longtemps? Donc là, c'est un peu le même principe basé sur des règles religieuses. C'est que cet ami, s'il ne t'est pas nuisible dans le sens où ça va jouer, tu vas te faire influencer, ça va te détourner dans ta religion. Si c'est le cas, tu ne peux plus le fréquenter. Tu ne dois plus le fréquenter. Sinon, si toi, tu vas lui faire, tu le fréquentes pour le réformer, pour le conseiller, etc., pour le réformer. Alors là, c'est permis, à condition qu'il ne te soit pas nuisible. Toi, tu lui portes le conseil, tu fais tout pour qu'il soit bien guidé, etc. Et attention, quand il fait des désobéissances ou des choses graves, il faut lui dire. Il faut lui dire. Wafik barakallah. Personnellement, au Maroc, depuis cette polémique, j'ai délaissé le McDo au Maroc. Barakallahu fik Nordine. D'ailleurs, si tu peux nous préciser quelle était la polémique, parce que j'ai oublié c'était quoi, mais je sais qu'il y a eu un truc au Maroc. Salam alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, cher professeur. Il y a aussi Abdelmounim Boussena qui dit ouvertement prendre parfois des avis marginaux. Ouais, exactement. J'avais oublié son nom, je le cherchais dans ma tête, mais je les ai oubliés. Naham, c'est la même chose. Papa, il s'était fait virer de la mosquée dans laquelle il prêchait car il faisait des fitnas. Je crois son mimbar est sur YouTube et il propose un cursus très cher en ligne. Wallahul musta'an. Pourquoi aller manger au McDo et les enrichir alors qu'alhamdoulillah, on a dans nos pays des restos, mashallah, avec des viandes, mashallah, Allah, rien à voir avec le McDo pour le prix d'un fish ou d'un McDo. Tu as un bon plat, mashallah. Barakallahu fik, Cheikh Nadir, jazakallahu khair, hada huwa al-haq, c'est vrai. Cheikh Ziyad, un homme marié avec une chrétienne qui ne veut pas se convertir, il a des enfants. Que doit faire beaucoup de frères qui sont dans ce cas? Wafik barakallah, Cheikh Abdallah. Un homme marié à une chrétienne, il patiente. Il patiente parce qu'à la base, il a le droit de se marier avec elle. Lui, il fait les causes et ça durera le temps que ça durera. L'idéal, c'est qu'elle se convertisse, hein. L'idéal, c'est qu'elle se convertisse. Naham. Après le mouchkil. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est une chose à laquelle, si la personne, par exemple, il était musulman, multazim, etc., il aurait dû y penser avant. Si maintenant, c'est une personne, il n'était pas multazim, ça veut dire il n'était pas à fond dans la pratique du kitab wa sunna, tout ça et tout, c'est vrai que là, il ne pouvait pas savoir. Il patiente, mais il fait en sorte que. que ses enfants ne soient pas. J'essaierai de chercher des fatwas, j'ai pas grand-chose en tête sur ça, cher Ziad. Désolé. Hakim, lorsque nous disons des paroles de savants, qu'elles sont marginales, nous parlons des savants qui font partie des sectes égarées. Non, pas forcément. Il y a des savants de la Sunna, ils sont venus avec des choses, des fois, des positions étranges. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ils sont tout seuls à dire ça. Il y a que. C'est comme ça. Donc, normalement, on prend pas. Normalement, on prend pas. Alors, on a des étudiantes qui nous ont également posé des questions. Alors, je vous rappelle, hein, on répond selon nos capacités, hein. On répond selon nos capacités. Alors, même si la viande n'est pas égorgée, il faut que je vérifie, j'ai oublié. Ça, c'est connu. Mais là, je vais vérifier, Inch'Allah. Tamam. J'ai une question par rapport au début du cours. Vous disiez qu'il faudrait un deuxième cours de fiqh par semaine. Sauriez-vous quel jour vous le feriez? Wallahi, ça, je ne sais pas. Et en plus, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça serait en deuxième année, pas en première année. À partir de la deuxième année, là, on va mettre deux cours de fiqh. Et ces cours de fiqh, on choisira un jour avec les élèves, bien entendu, hein. On choisira un jour, est-ce qu'ils veulent le soir, est-ce qu'ils veulent l'après-midi, est-ce qu'ils veulent le matin, on verra. On verra, mais je pense que ce serait la deux, pour la, quand je dis la première année, la deuxième année en fait. On termine la première année et ensuite on mettra un deuxième cours, Inch'Allah ta'ala, sauf s'il y a une forte demande. Sauf s'il y a une forte demande. S'il y a une forte demande, on peut s'organiser à rajouter un cours de fiqh. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai une question concernant l'hypocrisie. On dit qu'il y a l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Tout à fait. Mais dans le contexte du cours, quand on disait il y a la facilité et la chose qui nous arrange, c'est de l'hypocrisie mineure ou majeure. Barakallahu fiikum. Si une personne, elle s'obstine à prendre les avis marginaux, les avis, ça peut entrer dans l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie majeure. Moi, je suis pour le deuxième cours. Mashallah Nadir. Abdallah, je suis preneur pour le deuxième cours. D'accord. Nordine, je dois y aller. Est-ce que je peux quitter le cours? Jazakallah khair. Wayek. Ma fille Ashkel Nordine, tu peux, mon frère. Il n'y a pas de souci. Billah, je suis pas encore. J'y suis pas encore là. Mashallah. Tamam. Ou personnellement, je suis en demande, mashallah, du deuxième cours. Écoutez, on va faire un. Comment qu'on appelle ça? On va voir avec notre frère Cheikh Tayeb. Naham, sondage. Hein. On va faire un sondage avec Cheikh Tayeb, qui s'occupe des. Allah Ibarak, c'est lui, hein, tout ce qui est. Tout ce qui est multimédia, moi je ne suis pas connaisseur de ça. Hein. Il vous fera, Inch'Allah ta'ala, s'il le souhaite, Inch'Allah, Barakallahu fika akhi tayyib, il vous fera un genre de sondage, hein, naham sondage. Et puis voilà, si on voit qu'il y a beaucoup d'élèves, majorité d'élèves qui sont pour un deuxième cours de fiqh, eh ben moi j'ai pas de souci pour ça. J'ai pas de souci, bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Donc, Inch'Allah, notre cours hostel, j'achète les habits de mon enfant dans des magasins tels que Zara, Kiabi, etc. Ce ne sont pas des sarouels, il n'est pas pubère. Cela est autorisé. Wallahu a'lam. Inch'Allah ta'ala, je vais vous donner la réponse ce soir, Inch'Allah. Je vais vous donner la réponse ce soir parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte sur cette question. Donc, Allahu a'lam, je ne veux pas m'avancer. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, 4 ans, d'accord. 4 ans. 4 ans. Aujourd'hui, Inch'Allah, vous aurez votre réponse en espérant que l'admin elle a retenu votre nom. Elle a retenu votre nom. Non. Sinon, cette question, vous pouvez la reprendre et mettez-la sur le groupe. Mettez-la sur le groupe. Oui, j'avais vu que tu avais dit dixième. J'avais vu, t'inquiète pas, j'avais vu. Mais j'avais compris que c'était deuxième. On n'en est pas encore là, dixième cours. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Dixième cours. Tamam. Assalamu alaikum, je suis au téléphone, je peux pas. Désolé, ils ont le takabbur. Les convertis. Ah, d'accord. Ça, c'était hier ou avant-hier. Ou... Tamam. Hier plutôt. Je remontais pour voir les questions. C'est vrai que même hier, j'ai pas regardé. N'hésitez pas à me le rappeler. Quand il y a des frères qui ont des questions, que je vous vois pas, les frères, n'hésitez pas à me rappeler. Hein. À me dire, il y a les frères qui ont des questions. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là parce que plus on déborde sur notre cours de fiqh, plus on va déborder. Le cours de Aqidah, il sera plus tard. Naham. Wafikum barakallah. Mettez votre question pour le petit 4 ans. Mettez votre question sur le groupe et vous dites à Oumdelrahman qu'elle me la transmette. Pourquoi pas faire 2 heures de cours de fiqh à la suite? C'est une idée également. Cheikh Ziyad, c'est une idée. C'est une idée. Non. On va y. Parce que vous avez vu déjà, là on pourrait partir pour 2 heures, hein, facile. Entre les questions, les... C'est vrai que les cours de fiqh, de toute façon, 1 heure, sachez qu'une heure, c'est. Comme on dit ici, c'est just. C'est pas t'as rien appris, ça vaut rien, etc. Non, 1 heure c'est 1 heure. Mais 1 heure c'est just. C'est just. Inch'Allah, on va prendre tout ça en compte. Barakallahu fiikum, wa subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Au plaisir de vous retrouver dans les prochains cours, le suivant ou alors à demain pour les autres. Barakallahu fiikum.